Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est donc Jeudi Noir qui commence pour sa première partie. Ce soir, ça va balancher. Déjà, grâce à José qui nous a choisi des morceaux qui sont tout à fait adaptés au sujet, comme d'habitude, puisque vous venez d'entendre un morceau alors de je sais pas qui, ça s'appelle, il s'appelle ou elle s'appelle Damon et Naomi, Andy Aventine, donc sur l'Aventin. Enfin, c'est un morceau de 2007. Et ce soir, donc, pour expliquer mon jeu de mots épouvantable en ouverture de l'émission, On va vous parler d'un livre de Ballanche.
Pierre Simon.
Pierre Simon Ballanche, un livre qui s'intitule « Première sécession de la plèbe » et qui nous donne une formule générale de l'histoire de tous les peuples appliquée à l'histoire du peuple romain. Et c'est préfacé par Jacques Rancière, hein, c'est aux éditions Poncerre, Poncerre. Voilà, c'est Jean-Mathias qui a eu l'idée. Et c'est un livre intéressant. Ensuite, pas forcément évident à lire.
C'est un livre un peu étrange.
Un souci avec un micro là. Ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez.
Et oui, non, en fait, moi, ce qui avait attiré mon attention, c'est que c'est un livre qui a été édité l'année dernière, là, en 2017. Préface de Rancière, première sécession de la plèbe. C'est un livre qui a été édité par des petites maisons d'édition rennaises. Et en fait, qui a été... Alors bon, j'ai été regarder un peu la quatrième, ça m'intriguait. Et c'est un livre qui a été réédité à l'occasion de la Nuit Debout rennaise. Et qui a été en fait soumis à la discussion à tous ceux qui étaient présents lors de ce mouvement de Nuit Debout à Rennes. Qui avait été proposé donc cette maison d'édition pour être soumis à la discussion des Nuits Debout. Donc préface de Rancière, donc un philosophe français, peut-être un des plus, c'est un rescapé de la philosophie française des années 70, hein, qui était un élève d'Althusser, donc qui est passé du communisme un peu orthodoxe, je dirais, ensuite à un communisme un peu hétérodoxe, puis plus du tout communiste, et puis qui est en fait un des grands penseurs de la démocratie aujourd'hui en France. Quelqu'un d'intéressant, hein, même si on n'est pas obligé de le trouver toujours très clair, ni d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais donc préface de Rancière, et puis le contexte un peu d'édition de ce livre-là m'avait intrigué. Et comme il y est question de la plèbe, alors la plèbe c'est quoi, pour situer un petit peu rapidement, c'est la majorité en fait du peuple de la République romaine. Vous savez ou vous savez pas, peut-être moi j'ai réappris des choses effectivement à l'occasion de cette lecture, que donc après dans l'histoire de Rome, en fait il y a plusieurs périodes de manière très schématique. On a Rome est d'abord un royaume avec des rois, et puis ensuite le dernier des rois de Rome c'est Tarquin qui va mourir, et puis qui va être remplacé ensuite par la monarchie est remplacée par un régime républicain, la République romaine.
Et Tarquin, c'est même un tyran.
C'est un tyran, et c'est un des adversaires les plus farouches des riches, en fait, des familles les plus riches à Rome, puisqu'il cherche à établir sa tyrannie en imposant son pouvoir, notamment sur les plus riches.
Et grâce au peuple.
Grâce au peuple, souvent, effectivement, en s'appuyant sur les plus pauvres, mais pas forcément. Et puis ensuite, donc, la République romaine se met en place. Alors, bon, c'est quand même les Romains qui inventent ce terme de république, mais la république telle que Rome la met en place n'a pas grand-chose à voir avec la république française issue de la Révolution, hein, puisque en fait c'est un régime qui est inégalitaire.
Même si la République française s'inspire davantage de Rome que d'Athènes.
Bien sûr. Alors, c'est une référence importante, et en même temps, c'est un régime qui, en fait, n'a à première vue pas grand-chose à voir avec la République telle qu'on l'entend aujourd'hui, et qui par contre, a peut-être beaucoup plus de points communs que ce qu'on pourrait croire avec les républiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un régime, donc, à Rome, qui est un régime inégalitaire, puisqu'elle partage le peuple entre deux catégories. Il y a d'une part le Sénat, qui regroupe les familles patriciennes. Alors, les familles patriciennes, en fait, ce sont les plus riches. Ce sont celles aussi qui, en fait, c'est un statut qui se transmet de manière héréditaire. Donc, concentration de la richesse, du statut héréditaire, donc de la filiation. C'est la classe des propriétaires, pourrait-on dire, et c'est aussi elle qui gouverne officiellement, qui fait la loi à Rome, et qui règne notamment sur l'ensemble de la population, qu'on désigne donc par ceux qui ne sont pas patriciens, ce sont les plébéiens. Alors, le peuple, un petit peu, mais c'est le peuple en tant que celui qui subit les décisions des patriciens. Alors, la plèbe, c'est une histoire très compliqué, parce que cette période romaine, en fait, elle est très longue, hein, la période de la République romaine.
Celle qui subit, mais c'est aussi celle qui peut en partie imposer, puisque les plébéiens sont aussi les clients.
Tout à fait.
Des sénateurs. Hein, ouais. C'est-à-dire, ici, client, ça veut dire que en échange de, comment dire, en échange de certaines faveurs, les clients sont censés aider les sénateurs,
les soutenir,
y compris d'ailleurs physiquement.
Donc le principe de la clientèle, alors ici il faut être bien clair, hein, c'est pas des clients au sens commercial du terme, c'est-à-dire qu'en fait chaque patricien en fait se doit de représenter d'une manière ou d'une autre, ou de parler au nom d'eux en fait de sa plèbe, même s'il n'est pas contrôlé, il n'est pas susceptible d'être évoqué, il n'est pas élu, mais en fait il doit d'une certaine manière faire remonter la parole du terrain, comme on dit aujourd'hui. Donc il a sa clientèle, hein. Alors c'est pas une clientèle électorale parce qu'il n'y a pas d'élection, mais il y a un lien comme ça qui est assez complexe en fait entre les patriciens qui ont le pouvoir politique, le pouvoir de décision transmis de manière héréditaire, et la plèbe qui ne l'a pas mais qui peut s'exprimer alors par ces moyens qui sont en fait qui sont des moyens qui ne sont pas institués, qui ne sont pas institutionnels, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas formalisés. Donc voilà, ça peut être la colère de la plèbe, ça peut être des rassemblements de la plèbe, ça peut être des rumeurs émanant de la plèbe, etc. Donc toute une série en fait de moyens par lesquels la plèbe est censée pouvoir faire remonter ses humeurs, hein, parce que c'est pas un discours qui a voix au chapitre, et qui donc le patricien étant celui qui détient le monopole de la parole légitime, pas simplement de la force, et ni de la propriété, ni de l'affiliation, mais de la parole légitime, de la parole politique.
Et en même temps, c'est une très vieille opposition en fait, ouais, qu'on trouve déjà chez Aristote, ouais, au début de la politique, quand il distingue les animaux qui ont accès à la voix, à la phoné, qui peuvent exprimer la douleur et le plaisir, et puis ceux qui ont accès à la raison, à la parole raisonnable, ouais, et qui peuvent, eux, dire le juste et l'injuste.
Tout à fait.
Et en fait, cette opposition entre ceux qui ne peuvent dire que la peine et le plaisir, et ceux qui peuvent dire la justice et l'injustice, c'est l'opposition qu'on trouve aussi entre la plèbe et les patriciens. Parce que très fréquemment, les patriciens diront de la plèbe qu'elle ne peut pas parler. Accès au discours rationnel.
C'est la ligne, le fil rouge en fait de l'opposition entre plébéiens et patriciens. Il y en a un autre quand même qui est celui de l'importance du fric. Il faut quand même le dire, parce que en fait ceux qui sont les possédants, c'est les patriciens, et ceux qui peuvent prêter de l'argent, ce sont aussi les patriciens. Et ce qu'on observe en fait dans l'histoire de la plèbe, c'est qu'en fait les grandes oppositions, les grands conflits entre plébéiens et patriciens, ils sont très souvent liés en fait à l'endettement des plébéiens, c'est-à-dire qu'en fait, historiquement, lorsque les plébéiens sont surendettés et ne peuvent plus payer leurs dettes, eh bien, ils risquent de perdre en fait leur statut de citoyen romain, c'est-à-dire que c'est des citoyens, mais des citoyens de seconde zone, hein, on pourrait dire, comme on dit aujourd'hui. Ils risquent de perdre ce statut-là, non seulement parce qu'ils peuvent, voilà, ils risquent la prison, ils risquent des châtiments physiques, et puis ils risquent tout simplement en fait la perte de leur citoyenneté romaine. Et en fait, les principaux conflits, alors il y en a plusieurs. Là, le texte de Ballanche nous donne une formulation un petit peu lyrique de ce qu'on appelait la première sécession de la plèbe. C'est le premier gros conflit qui oppose les patriciens et les plébéiens. Et cette sécession, c'est-à-dire ce premier conflit majeur entre les deux castes, je dirais, de la République romaine, il est notamment lié historiquement à ce surendettement de la plèbe qui en fait les prend à la gorge et fait qu'ils ne peuvent plus en fait payer leurs dettes et répondre aux engagements qu'ils ont pris. Alors il y a plusieurs, ce qu'on appelle la sécession de la plèbe. Alors c'est la première, donc c'est celle que raconte Ballanche là dans ce texte. C'est donc en 494 avant Jésus-Christ. Il y en a eu plusieurs, hein, des sécessions. Pourquoi parler de sécession? Bah parce qu'en fait, celle-ci est particulièrement célèbre, parce que la plèbe surbiffe pour une première fois. Et elle surbiffe parce que donc elle est surendettée et parce que les premières victimes qui tombent en fait suite à ce surendettement vont être traitées comme des esclaves, hein, c'est-à-dire non pas comme des citoyens, mais vont subir des châtiments physiques extrêmement violents, spectaculaires. Et donc la plèbe, conciliabule, on va dire, et décide de se retirer de la ville de Rome, c'est-à-dire qu'elle cesse ses activités et elle se retire sur une des sept collines de Rome, là, qui s'appelle l'Aventin. Et en fait, elle va se mettre à discuter, à se réunir et puis à essayer de débattre pour essayer de voir où est le problème et comment se sortir de cette nasse dans laquelle se trouvent les plébéiens. Donc ça, c'est la dimension historique, si vous voulez, de l'événement. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un conflit de caste, pourrait-on dire, qui est interne à un régime républicain. Donc, on n'est pas dans une opposition entre la tyrannie et le peuple. Hein. C'est les citoyens de seconde zone qui s'auto-organisent pour une première fois. C'est pas une révolte d'esclaves non plus. Hein. C'est pas l'histoire de Spartacus. C'est autre chose. C'est au sein de la citoyenneté romaine, les citoyens de seconde zone qui n'en peuvent plus et qui donc s'organisent pour essayer de voir comment faire pour ne plus subir, en quelque sorte, le joug des patriciens. Alors, derrière ça, on va en parler, bien sûr, il y a, y a beaucoup de symboles, en fait. C'est pour ça que cet événement a fait couler beaucoup d'encre et qu'il a servi un peu de référence, je dirais presque de scène primitive, on pourrait dire, pour beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire une espèce de mythe un peu fondateur.
Une matrice qu'on retrouve dans pas mal de bouquins, en fait.
Qu'on retrouve dans beaucoup de livres. Et qui est pas mal discuté, alors pas forcément l'événement historique lui-même, ni non plus forcément les versions un petit peu héroïques, un peu lyriques qui en sont données au 19e. Le texte de Ballanche, là, en fait, est une réédition d'un texte qui date de 1829. C'est pour vous donner un petit peu le contexte historique de l'édition. Et alors, il semblerait, du point de vue de l'histoire romaine et de son utilisation politique dans le domaine politique, que ce soit une des premières fois où effectivement cette sécession devient une espèce de référence dans le discours politique et dans la philosophie politique, dans la philosophie de l'histoire. Et c'est encore quelque chose qui est discuté aujourd'hui. On en parlera un peu après.
Faudrait voir chez Machiavel.
C'est possible, oui. Parce que
chez Machiavel, ouais. Dans les discours sur la décade de Tite-Live, t'as quelque chose où Machiavel dit déjà que le principe du mouvement politique, oui. C'est justement l'opposition des grands et des petits.
Et puis effectivement, tu trouves aussi des références à la plèbe. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est à la sécession en tant que telle ou si c'est une analyse plus générale, mais au moment de la Révolution, chez Babeuf, par exemple. Babeuf est aussi un des démocrates les plus radicaux parmi les révolutionnaires. Et s'appuie aussi là-dessus. Alors, peut-être deux mots quand même sur l'auteur, sur Ballanche, parce que c'est rappelé dans la préface de Rancière, et puis c'est une donnée importante.
A priori, il est de droite.
Ah bah, il est super à droite. C'est-à-dire que Ballanche, ouais. En fait, 1829, c'est un militant ultra-royaliste, réactionnaire, qui est violemment anti-révolutionnaire. À l'époque, ça veut dire hostile à la Révolution française. Et en fait, il fait partie donc des ultras. Donc ça, c'est intéressant. Il est catholique monarchiste, réactionnaire. C'est un habitué des salons. C'est un ami de Chateaubriand, un ami de Madame de Récamier. Donc ces auteurs qui sont en fait partisans d'un retour à une monarchie plus ou moins dur en fait, d'avant 89, pour une restauration de la monarchie. Et alors ça, évidemment, c'est un peu troublant, le fait qu'un auteur comme Ballanche s'empare de cet événement historique-là, qui souvent est une référence, mais plutôt favorable au peuple, favorable à la démocratie, favorable à la mythologie de la révolution populaire, je dirais. Alors, ça vient donc ce texte d'un auteur qui n'est pas du tout de ce courant-là. Alors, ça se sent, on va en discuter un petit peu, ça se sent par certains aspects. Il y a quelque chose comme une espèce de lecture religieuse un peu de cet événement-là, c'est-à-dire qu'on a, il y a dans le catholicisme toute une thématique des pauvres, de la charité chrétienne et du respect du pauvre, qui en fait, le pauvre est celui qui est le plus proche, effectivement, du salut, que le riche, qui lui-même est empêtré dans ses richesses terrestres, etc. Donc ça, c'est un thème catholique très, 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 très fréquent.
Ce qui explique une partie du conservatisme catholique aussi, parce qu'enrichir le pauvre, c'est quand même lui faire perdre le salut.
Exactement. Et c'est un thème qui peut aussi d'ailleurs être en partie monarchiste, c'est-à-dire que le roi est censé être à l'écoute de son peuple et il est censé, y compris, le défendre contre. Alors, on ne parle pas forcément des patriciens, mais contre effectivement les nobles ou les riches corrompus qui eux ne défendent que leur intérêt et n'ont pas en vue le corps du peuple dans son ensemble. Alors que le roi, comme monarque, celui le principe unique du gouvernement, est censé être l'incarnation en quelque sorte de l'ensemble de ses sujets. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans le texte de Ballanche, même si c'est un texte qui est assez bizarre, moi, je trouve, parce que il y a cette dimension-là. Donc, je résume, il y a cette idée, on va le voir, qu'il faut être à l'écoute du peuple, des pauvres, en l'occurrence, des plus pauvres du peuple, des plus pauvres d'entre nous, des citoyens de seconde zone. Et en même temps, il y a des choses où il va plus loin que cette caricature-là, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des thèmes qui sont profondément démocratiques. Parce que ce qu'il va nous raconter, en fait, dans ce texte-là, c'est la manière dont, en fait, la plèbe... Alors, c'est une langue du 19e qui est très lyrique, qui est assez surprenante, en fait, on n'est plus habitué à ça. Mais ce qu'il nous raconte, c'est la manière, avec beaucoup de lyrisme, donc, la manière dont la plèbe va, en quelque sorte, prendre conscience d'elle-même, de sa propre force, de ses propres capacités, donc à parler, tu l'as dit, puisqu'en fait la plèbe c'est celle qui n'a pas droit au chapitre, qui n'a pas voix au chapitre, qui n'a pas de voix en quelque sorte. Elle a des humeurs, elle fait partie. Il y a un moment, il y a une formule assez fameuse où un sénateur romain, donc un patricien, qui est censé être un ami de la plèbe, va leur dire qu'en fait Bien sûr qu'il faut, il est prêt à les défendre, il est prêt à les représenter, il est prêt à défendre leurs intérêts, mais bien sûr, il ne faut pas qu'ils oublient que ce ne sont pas des humains, ce sont des mortels. Des humains et non pas des mortels. Alors ça veut dire que ce ne sont pas des animaux, mais ça veut dire que ce ne sont pas des êtres humains complets non plus. C'est-à-dire que...
qu'ils n'ont pas de nom, parce que les sénateurs, Ballanche insiste beaucoup sur le fait que, comme, dans la mesure où ils se transmettent un nom,
oui.
Ils sont immortels parce qu'ils portent le nom de leur père, qui portait le nom de son père, etc. etc.
La filiation les rend immortels.
Donc la filiation les rend immortels.
Et la transmission du patrimoine va avec.
Alors
évidemment.
Que les plébéiens n'ont pas de nom.
Ils n'ont pas de nom, c'est-à-dire qu'à chaque génération, en fait, ils recommencent à zéro, ils n'héritent pas. Ils n'héritent pas, ils ne transmettent pas, ils n'accumulent pas, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de parole ni de discours articulé légitime. Et donc, en fait, ce que nous raconte ce texte de Ballanche, c'est la manière dont la plèbe va, en quelque sorte, prendre conscience du fait que, étant douée du langage comme les patriciens, elle a voix au chapitre, elle peut s'organiser. Alors, elle ne prend pas conscience que de ça. Hein. Elle prend conscience d'abord de son nombre, de sa force. Elle va se donner des chefs. Ce n'est pas du tout un texte anti-autoritaire. Hein. C'est-à-dire que c'est la manière dont la plèbe va se donner des représentants légitimes qui vont être justement capables de porter un discours, d'articuler un discours et en fait de se partager une part du gâteau politique.
Aussi, hein. Oui.
Donc c'est aussi...
Et cette thématique de l'absence de parole, enfin, de capacité à parler, ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais... Alors un ami qui parfois aime bien inventer des citations m'avait cité le général de Gaulle. Est-ce véridique, est-ce une invention, j'en sais rien, mais je trouvais la citation trop belle, même si elle n'existe pas. Le général de Gaulle aurait dit des Algériens, mais dans un de ces grands moments racistes, mais on ne peut pas négocier avec des gens qui ne parlent pas, mais qui crient.
Mmh. Il était en plein dans cette thématique-là.
Il est plein dans cette thématique-là. On peut aussi penser à tout un tas de journalistes qui parlent des moments de grève comme des moments de grogne.
Bien sûr.
Ça, c'est un grand classique. Voilà, la grogne. On grogne. Ouais. Non, on a des revendications à défendre. On peut les articuler, mais les journalistes ne les comprennent pas puisqu'ils n'entendent que des grognements. Et ça, donc c'est pour ça qu'il faut un petit rappel de réel parce que la thématique de Ballanche, elle est forte.
C'est ça qui intéresse aussi Rancière qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Comment se met en place une scène, en fait, ce qu'il appelle le terme théâtral, une scène sur laquelle il va pouvoir y avoir discussion. Et en fait, il dit que la plupart du temps, l'enjeu, c'est pas forcément le rapport de force objectif ou extérieur entre des classes, etc. L'enjeu est très souvent dans les luttes politiques, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, le fait tout simplement de faire émerger une scène. C'est-à-dire un lieu commun ou un espace commun dans lequel en fait des discours vont pouvoir se confronter. Et c'est vrai que c'est très souvent un enjeu. Alors pour en finir avant une première pause musicale, moi ce qui m'a intéressé aussi, c'est pour ça que j'avais acheté le livre déjà il y a quelques temps et puis j'avais laissé un peu de côté. Ce qui m'intéresse c'est sur l'actualité de ce type d'approche là, puisque ce qui est intéressant c'est qu'il a été édité au moment de Nuit debout, mais l'actualité politique du moment là
actuel avec les
gilets jaunes bien sûr et m'a un peu interpellé de ce côté là parce que il y a beaucoup de thématiques je trouve dans la manière dont effectivement ce mouvement est décrit, dont il se décrit lui-même d'ailleurs, qui rappelle en fait des choses qui relèvent beaucoup plus effectivement peut-être d'une histoire beaucoup plus ancienne, antique, et de cette catégorie de la plèbe là et des difficultés, des problèmes qui sont soulevés par le fait d'être un citoyen de seconde zone. Je me suis demandé effectivement, et c'est une question qu'on pourra se poser là tout à l'heure, s'il n'y avait pas quelque chose de beaucoup plus proche du mouvement des Gilets jaunes dans cette catégorie là de la plèbe que dans ce qui s'est passé au moment de Nuit debout.
Il faut se poser la question parce que là je peux vous citer la préface de Rancière. Hein, donc même le plus bienveillant des patrons, celui qui traite bien ses clients et a pris la peine de venir sur l'Aventin parler aux êtres sans nom, doit leur rappeler l'incontournable réalité de leurs conditions, ; votre malheur est de n'être pas. Et moi, j'ai immédiatement pensé à Macron ayant dit ces gens-là ne sont rien.
Oui. Et t'as ça dans la manière dont tu le décris, que ce soit la presse, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ministres, que ce soit t'as toute cette thématique-là. Et puis, il y a aussi, on spoil un petit peu la fin, mais il y a aussi la figure complémentaire de la plèbe, c'est celle du tribun. Donc le tribun, c'est celui qui va justement, c'est pas un sénateur, c'est pas un patricien, mais c'est celui qui va parler au nom de la plèbe et qui va être en quelque sorte plébiscité par la plèbe, hein,
c'est le cas de le dire,
pour justement porter sa parole. Et c'est un terme, on parle de Mélenchon, bien évidemment, mais il n'y a pas que Mélenchon. Il y a pas mal de clients.
Non, c'est pas des clients, c'est des tribuns.
c'est des tribuns, ouais, tribuns, mais du coup, c'est, y a, en tout cas, il parle de candidats à la fonction. Et c'est, voilà, c'est une question sur, le, sur laquelle on reviendra tout à l'heure aussi, de fait, savoir si finalement ce modèle-là du conflit entre la plèbe et les patriciens est pas. Dans quelle mesure c'est quelque chose qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui marche dans ce modèle-là pour comprendre la situation aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui ne marche pas aussi, parce que je pense que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait tenter de dire. Voilà.
Voilà, merci Jean-Mathias. Donc on va écouter un peu de musique, et puis ensuite on va vous reparler de la première sécession de la plèbe de Pierre-Simon Balanche.
Afternoon, too busy guys, lots of guys, who knows who, everybody had a turn, oh, to make Rome burn, yeah, but those Romans never learn, well, it's time to take a match, it's time to return, I said Rome wasn't burnt in a day, oh, Rome wasn't burnt in a day, oh, Rome wasn't burnt in a day, yeah, Rome wasn't burnt in a day.
La radio sans du ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Après un petit morceau de Chain and the Gang, Rome Wasn't Burned in a Day, un morceau que j'ai très intelligemment situé comme ça à l'oreille dans les années 70. En fait, il date de 2017. Voilà, donc c'est en effet de mes compétences musicales. Voilà, il y a Jean-Mathias qui me
lance. De ce qui en restait, en fait.
De ce qui en restait, voilà, ouais. Jean-Mathias qui me lance des boulettes de papier. Et donc ce soir, on vous parle d'un livre de Pierre-Simon Balanche, La première sécession de la plèbe, formule générale de l'histoire de tous les peuples appliquée à l'histoire du peuple romain. C'était édité chez Poncerre avec une préface de Jacques Rancière. Et on vous a un peu exposé les termes du débat chez Balanche, à savoir qu'il reprend un grand épisode de l'histoire romaine où la plèbe, ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de nom, que personne ne prend pour des humains parmi ceux qui ont le pouvoir,
mais qui sont citoyens, c'est pas des esclaves, hein.
Font sécession, partent sur l'Aventin et contraignent les sénateurs à leur parler. Tout simplement, et à reconnaître, ne serait-ce que momentanément, qu'ils peuvent avoir une voix. Mmh. Ce qui aboutira à la nouvelle institution de la République romaine, l'institution du tribunat, des tribuns, qui sont justement censés être les représentants de la plèbe
auprès des sénateurs.
Mmh. Et les tribuns qui seront souvent eux-mêmes des sénateurs, en réalité, si on connaît un petit peu l'histoire. Voilà, et donc, évidemment, si vous suivez un peu l'actualité, cela peut avoir deux, trois échos avec les gilets jaunes, avec Nuit Debout, avec tous ces gens qui, justement, ne sont pas censés être les dépositaires de la parole légitime, de la parole publique, de la parole autorisée. Mais les parallèles sont compliqués, tu sais, Jean-Mathias.
Bah, en fait, alors avant de raconter un petit peu en quelques mots quelle est la trame, si vous voulez, de cette histoire là reprise par Balanche, alors qui n'est pas un travail d'historien du tout, hein, mais moi il me semble, si tu veux, que ce thème de la plèbe, il est, pourquoi il a des échos aujourd'hui et pourquoi c'est un thème qui est discuté. Il y a le copain Olivier Razac là qu'on avait eu ici dans cette émission il y a quelques temps, il y a un paquet de temps, mais qui travaille sur ces questions là notamment. C'est
l'émission est toujours disponible sur gurdulu.org.
Absolument. Et en fait, c'est pas le seul. Hein. Effectivement, on avait aussi parlé des textes de Alain Brossard qui travaille aussi là-dessus. Il me semble que c'est un thème qui émerge.
On trouve aussi chez Foucault.
Ouais, mais qui a une belle. Qui a de l'avenir devant lui, parce qu'au fond, le thème de la plèbe, c'est en fait la manière dont le peuple s'organise lorsque. Alors, c'est pas des mouvements révolutionnaires en fait. C'est-à-dire que depuis que le mouvement ouvrier révolutionnaire, sous ses différentes formes, est un peu en recul, voire a tendance à disparaître de la scène. Évidemment, les conflits de classe ou les conflits sociaux. Bon, parce qu'on ne parle même pas de classe d'une certaine manière, c'est des castes là. Hein, mais les conflits sociaux ne disparaissent pas. Et effectivement, la question d'aller chercher des références ou des thèmes dans l'histoire ou des moments de l'histoire qui pourraient fournir des outils conduit assez logiquement effectivement à cette longue période de l'histoire romaine dans laquelle on a cette opposition de caste entre patriciens et plébéiens. Je pense que c'est pas un hasard, moi, effectivement, si ce thème de la plèbe et si ces catégories là ressurgissent aujourd'hui et puis sont tentantes, parce qu'effectivement, alors, une des caractéristiques de la plèbe, c'est ça, c'est que il y a aucun projet révolutionnaire derrière. C'est pas non plus quelque chose qui s'inscrit dans une catégorie socio-économique comme le prolétariat ou comme la classe ouvrière. C'est pas la situation de l'appareil de production. Non, on est en fait dans quelque chose qui arrive plutôt. La plèbe, elle se définit par sa situation dans l'ordre symbolique de la, oui, de la cité, dans l'ordre symbolique et qui détermine bien sûr le pouvoir politique. Donc
un sociologue qui a été invité sur ces ondes, Samuel Hayat. Reprenait d'un historien anglais, Thompson, l'idée de la notion d'économie morale.
Oui.
Avec, je ne sais pas si tu as lu cet article.
Non, mais je pense qu'à un moment. Oui, j'avais vu ça.
Avec l'idée que justement, ils ne sont pas des révolutionnaires, ce qu'ils réclament,
c'est une reconnaissance symbolique,
c'est
d'abord.
C'est ça.
Et ensuite,
c'est symbolique.
Et en fait, le pouvoir politique ou la part de pouvoir politique en général est symbolique aussi, hein, souvent la plupart du temps, il faut quand même le dire. Mais c'est, voilà, on ne fait pas table rase du passé, on ne cherche pas à fonder une nouvelle société, on ne cherche pas à abolir la propriété privée. À aucun moment il est question de supprimer, dans le texte, ça, j'y reviendrai, à aucun moment il est proposé de supprimer la relation entre patron et client, alors patron et celui qui travaille, hein, aussi, là, en l'occurrence, c'est ça. C'est pas du tout cette thématique-là. Et voilà, bon, c'est juste, je le pose ça dans la discussion, c'est sans doute pas un hasard que, voilà, avec le reflux des mouvements ouvriers et des projets politiques révolutionnaires, eh bien, en fait, ce terme de la plèbe, du coup, soit tentant pour beaucoup de gens, avec des arguments qui sont convaincants, d'autres qui le sont un peu moins. Alors, peut-être avant de revenir à ça, raconter ce qu'on trouve, en fait, que l'histoire, en fait, que nous raconte Balanche. Alors, une histoire un peu étrange, parce que, on est au 19e siècle, 1829, puis c'est l'histoire très philosophique, on est à cheval entre, voilà, le mythe, la leçon de philosophie d'histoire, la leçon politique, il y a évidemment des connotations religieuses, on les a évoquées tout à l'heure. Donc il y a d'abord une petite partie dans laquelle il présente les différentes voies.
Oui, parce que comme il vient des contre-révolutionnaires français, il y a l'idée très très présente chez eux que la révolution a été une punition infligée par Dieu à une aristocratie décadente qui avait perdu le sens de sa mission et le sens du christianisme.
C'est une logique de restauration.
C'est une logique de restauration.
Il s'agit de restaurer un ordre qui a été corrompu et qui a donc été puni par Dieu. Et il s'agit de trouver aussi des formes d'expression qui ne sont pas celles des philosophes des Lumières, donc qui ne sont pas des formes rationnelles, qui ne sont pas des formes où on s'appuie sur la connaissance, sur la science. Non, il s'agit de faire appel au sentiment, de faire appel à l'émotion, et le style s'en ressent beaucoup. Alors d'abord, il commence par présenter les différentes voies qui vont en quelque sorte rapporter cette histoire-là, même si après c'est un récit d'un bloc, hein, c'est pas un dialogue. Donc il y a le philosophe, le poète,
jurisconsulte.
L'oracle, le jurisconsulte. Bon, voilà. donc différents. Bon, après, il n'en fait pas trop d'usage derrière. Et ensuite, ce que ça
l'historien.
Nous
raconte. L'historien, ils sont voilà, quatre.
Il y a l'historien ouais. aussi. Et ensuite, alors, il nous raconte quoi ? Ben, il y a le point de départ, en fait, l'élément déclencheur. Donc là, ce n'est pas le prix du diesel, c'est la mort de Tarquin. Plus exactement, en fait,
La mort en exil.
La mort en exil de Tarquin. Les patriciens se réunissent et, en fait, essayent de se mettre d'accord sur la manière dont maintenant il va falloir organiser les choses. C'est-à-dire qu'ils en ont pris plein les carreaux par ce tyran qui, en fait, voulait imposer sa domination.
Justement, ce qui est intéressant, t'as zappé un passage, c'est le passage au début, les plébéiens, en fait, la mort de Tarquin, de l'ancien tyran, ils s'en moquent. Ah bah jusqu'à ce que certains commencent à se dire, et là, il y a un élément qu'on trouve dans pas mal finalement, de moments révolutionnaires, la restauration fantasmatique d'un passé jusqu'alors oublié. Et c'est-à-dire, en gros, c'était pas si mal sous les rois. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Avec la crainte aussi que, comme l'ancien tyran a disparu, les nouveaux maîtres, qui ne craignent plus, qui n'ont plus rien à craindre, vont être encore plus, finalement, oppressifs qu'avant.
Et c'est dans un deuxième temps. D'abord, t'as le première scène, c'est le Sénat, les sénateurs qui débattent ensemble de la manière dont ils vont en fait partager le gâteau maintenant que le tyran a disparu. Ensuite, on zoome sur la plèbe, et ça démarre l'élément déclencheur, c'est les sévices physiques imposés à certains des plébéiens qui vont, semer la révolte. Là, il y a une espèce de pacte, c'est là où ça rejoint ce que tu dis, il y a une espèce de pacte très ancien, originaire, si vous voulez, qui fait qu'on ne traite pas un citoyen romain comme ça, même s'il n'a pas de pouvoir, même s'il n'a pas voix au chapitre, même s'il est que plébéien, et donc qui va déclencher la sécession. Alors ensuite, donc, les plébéiens se retirent sur cette colline de Rome, l'Aventin, et puis, en fait, là, il y a toutes les voix qui commencent à s'exprimer, il y a ceux qui ont la trouille, il y a ceux qui veulent, en fait, retrouver une espèce de compromis dans lequel ils continueront à la fermer du moment qu'ils ont à manger et du moment qu'ils sont couverts par leurs patriciens de service. Et puis, tu as ceux qui commencent petit à petit à se rendre compte qu'en fait, ils sont déjà en train de causer entre eux, alors qu'ils sont censés ne pas pouvoir se causer entre eux, ne pas savoir parler, tout simplement. Et du coup, émerge petit à petit, en fait, une espèce de constat qui est celui de, en fait, on est comme eux, d'une certaine manière. On est comme eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien de plus que nous, et surtout, nous, on n'a rien de moins qu'eux. C'est-à-dire qu'on sent... Alors, c'est marrant, parce qu'il y a toujours cette gradation-là, qui est très 19e, mais effectivement, là, il parle de phénoménologie de l'esprit au début. Phénoménologie, c'est un mot très compliqué pour essayer de voir comment les différentes facultés humaines, petit à petit, se révèlent à celui qui les possède, et puis comment, petit à petit, le conduit à une prise de conscience, au fond, de son égalité avec ceux qu'il pensait être supérieurs, ou ceux qu'il pensait être d'un ordre différent et supérieur aussi. Donc il y a toujours ce chemin-là, donc on voit, il y a des différentes interventions, mais finalement on sent les choses de la même manière, et puis on a le même type de sentiment qu'eux, on peut avoir les mêmes types de réactions, et puis au fond, est-ce qu'on leur sert pas ? Est-ce que nos bras, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire sans nos bras, sans notre force de travail, etc. Et puis au fond, est-ce qu'on n'est pas capable, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de s'organiser, de parler entre nous ? Donc petit à petit, il y a cette prise de conscience là, qui est très classique, là pour le coup, mais qui émerge dans la discussion. Et puis ensuite, il commence à y avoir le balai et les effets d'essuie-glace avec les représentants du Sénat. Voilà. Qui s'inquiète parce que y a plus personne dans Rome, hein, parce que la plèbe c'est quand même 95% de la population, il y a plus personne qui bosse là-dedans. Donc en fait, on va envoyer quelqu'un sur l'Aventin pour aller voir ce qu'il en est. Alors on envoie qui ? On envoie d'abord Servilius, qui est le patron magnanime. C'est la CFDT, si vous voulez. Voilà, c'est la CFDT qui est envoyée donc par là. Alors bon, il y a débat entre les sénateurs. Qu'est-ce qu'on envoie ? D'abord, faut tous les flinguer ou on en prend quelques-uns. Enfin, un exemple, ils vont revenir. Bon, non. On n'est pas sûr de notre coup, ils sont quand même nombreux, on ne sait pas comment ça va tourner. Donc on envoie Servilius, passage d'anthologie, c'est peut-être le meilleur passage, moi je trouve, du bouquin, où Servilius, en fait, arrive sur le mode « je vous ai compris, quoi ». « Je vous ai compris, oui, bien sûr que vous sentez comme nous, bien sûr qu'on ne doit pas vous traiter comme ça, bien sûr que vous êtes des citoyens romains, voilà ». Et en même temps, évidemment, la clé de son discours, c'est cette fameuse formule que je disais tout à l'heure, c'est « en même temps, vous n'êtes pas des humains, on est bien d'accord, hein. Vous êtes simplement des mortels. Donc je vais plaider votre cause. Si vous voulez, même, je vais vous représenter. Je serai votre député. Votez pour moi. Votez pour moi et je porterai votre parole là. Et là, ça s'emballe un peu. C'est-à-dire qu'en fait, les plébéiens, il y en a pas mal qui sont contents, qui disent voilà, on a enfin notre député. Lui, il nous comprend. Lui, si c'est ce qu'on veut, etc. Puis il y en a d'autres qui disent il a pas tout dit quand même là. Il a quand même pas tout dit. Il y a des trucs qui restent. Non, on veut plus que ça. Et puis on veut que tu dises précisément que on est des égaux, etc. Et là, bon, ça s'emballe. Donc alors, le Servilius, il commence à blêmir un peu. Et là, alors il y a tout un un contexte romain qui est un peu compliqué pour nous, un peu exotique maintenant. Donc, alors il y a des appels au fait. Alors, ils s'approprient des procédures qui sont celles en fait de la culture romaine, des procédures religieuses notamment. Il faut jeter des anathèmes, proposer une apothéose, se donner des. Et donc, ils revendiquent en quelque sorte des gestes qui sont en principe réservés aux patriciens et qui sont en fait des gestes qui touchent au sacré. Et au sacré, la plèbe n'a pas accès au sacré pour le coup, puisque évidemment elle est tout en bas de l'échelle et donc
Le sacré est au niveau du pouvoir.
Le sacré est au niveau du pouvoir, le sacré valide le pouvoir, le sacré légitime le pouvoir et le fait de revendiquer ces gestes-là, qui sont des gestes de nature religieuse, en condamnant un tel qui a abusé, notamment en punissant avec abus un plébéien ou en contraire en portant au nu celui qui va les défendre, etc. Ces gestes-là effraient beaucoup Servilius, parce que tout simplement, bon, même si ça paraît un petit peu anecdotique, ça ne l'est pas du tout, parce que dans l'ordre symbolique, c'est une manière de revendiquer, si vous voulez, voilà, une égalité dans le rapport au sacré. Bon.
Et dans le domaine politique.
Dans le domaine politique. Alors, ça ne tourne pas très bien, donc Servilius revient, et là, il est un peu inquiet. Et alors, il change complètement de registre, très intéressant, c'est-à-dire qu'il
est dépassé par sa base.
Il est dépassé, il est plus que dépassé par sa base, et il change de registre, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que autant il était sur un mode « je vous ai compris », autant là, face à les membres de sa caste, alors là, c'est plus du tout le même discours. C'est, non mais alors attendez, là, les gars, on est dans le caca. Là, ils veulent carrément lancer des anathèmes, proposer des apothéoses, ils se sont donné des représentants, plus qu'inquiets. Et là, je trouve très intéressant. En fait,
c'est assez bien vu.
C'est bien vu.
La figure tribunicienne qui donne
exactement.
Un coup.
Il n'est pas tribun, lui. Il n'est pas tribun.
Oui, c'est ça, je vais pouvoir retirer les marrons du feu de la contestation. Voilà. Et m'élever parmi mes pairs,
voilà.
Alors que jusqu'ici j'étais plutôt le réprouvé, étant donné que j'étais censé représenter le peuple. C'est rigolo parce que là, se dit en fait, non, je suis un des patriciens, et si ça continue,
on va niquer avec les patriciens. Donc c'est ça qu'il dit, c'est aux patriciens. Il leur dit pas, attendez, la plèbe, moi, ils veulent ci, ils veulent ça. Non, là, il y a cette espèce de truc où il sent que ça le dépasse, quoi, en quelque sorte. Donc panique à bord, parce que du coup ils sont devenus trop forts pour qu'on puisse simplement soit les rouler dans la farine, soit les sanctionner en leur envoyant des balles de défense. Donc en fait deuxième émissaire. Le problème, c'est que l'émissaire, il va se retrouver face à une plèbe qui s'organise pas de manière en soviet horizontaux, mais qui se donne des tribuns qui vont porter sa parole et qui donc en fait vont faire pièce en quelque sorte aux représentants du Sénat. Et en fait, voilà, l'histoire se termine en gros de cette manière-là, avec cette émancipation de la parole plébéienne incarnée par des tribuns qui du coup sont issus de la plèbe en quelque sorte, et qui vont porter la revendication d'une parole très audible par les patriciens, exactement au même titre que ceux qui possèdent la propriété, la transmission, l'héritage, la filiation, le rapport au sacré, etc. Et voilà, et c'est l'ouverture du dialogue social auquel nous aspirons tous. Alors, dernière phrase quand même du livre, je la donne parce que ça donne aussi peut-être un peu les limites, mais aussi le sens aussi de ce que Ballanche a en tête. C'est la dernière phrase, la dernière phrase du récit. Donc je vous la cite. Donc jusqu'alors, le client, c'est le plébéien, faut comprendre ça comme ça. Jusqu'alors, le client avait été identique avec le patron, c'est-à-dire en fait qu'il était sous sa coupe, il ne se distinguait pas de lui, il n'avait pas de volonté distincte, pas de parole distincte.
Son action était une émanation de la volonté de son patron. Et donc il n'agit pas indépendamment de la volonté du patron, donc il n'est rien.
Et donc alors, la conclusion de Ballanche, c'est ça. La première sécession plébéienne se résume donc par ce seul fait. Jusqu'alors, le client avait été identique avec le patron. Il vient de s'en détacher pour vivre de sa vie propre, pour commencer une destinée personnelle, pour avoir la conscience de lui-même, enfin, pour produire une volonté individuelle. Phrase intéressante. Le client continuera d'être soumis au patron, mais il en sera distinct, comme l'enfant nouveau-né est distinct de sa mère. Voilà. Alors, je trouve que cette phrase-là, elle est assez honnête par rapport au récit, je trouve, parce qu'effectivement, il s'agit de l'histoire d'une émancipation de la plèbe qui va s'affirmer en tant que personne politique, en tant que sujet politique, ça c'est tout à fait clair, mais évidemment, à la clé, ce qui n'est pas interrogé, en fait, par ce récit, y compris par l'émancipation de la plèbe, c'est le rapport de soumission. C'est le rapport de soumission, c'est-à-dire que la plèbe a le droit de porter ses revendications, elle a le droit de discuter les conditions de sa soumission, mais la soumission, d'une certaine manière, reste une donnée naturelle culturelle et nécessaire en fait de la vie sociale. Alors ça, c'est un thème qui m'a intéressé aussi. C'est à un moment donné, Servilius dit ça en fait. Il dit, mais en fait, c'est quand il vient sa première délégation, hein, première tentative cédétiste là, c'est mais on est bien d'accord que c'est pas nous qui vous oppressons. En fait, c'est la nécessité. C'est la nécessité, c'est-à-dire que votre place est naturelle. C'est là où effectivement il y a un enjeu symbolique, c'est-à-dire que
c'est ce que dit un des sénateurs à un moment face à Servilius et quelques autres qui disent on peut pas opprimer les plébéiens trop longtemps, sinon ça va mal finir. Ouais. Et un des sénateurs qui dit non mais on peut pas aller contre l'ordre naturel, c'est l'ordre des choses.
Voilà.
C'est pas nous qui les soumettons, c'est eux qui sont en dessous de nous,
qui sont les soumis.
Soumis. Ça, c'est aussi un thème très très fréquent.
Tout à fait.
À savoir que finalement, l'ordre social ne fait que refléter l'ordre naturel.
Alors, ce que je trouve intéressant, moi, mais du coup, on va peut-être refaire une pause là-dessus, c'est que ça permet, en fait, quand même, ça a été reformulé dans des termes tout à fait différents maintenant, mais je trouve que c'est assez intéressant dans la manière dont ça décrit le fonctionnement symbolique d'une hégémonie. En fait, ça c'est un thème qui a été très discuté après au XXe siècle, notamment chez des gens comme Gramsci, etc.
L'hégémonie culturelle,
la manière dont en fait une. Alors bon, au XXe siècle, c'était dans un cadre où c'était une classe, la bourgeoisie qui effectivement a le pouvoir. Mais en fait, une classe ne règne jamais uniquement par la force. Il lui faut en fait tout un discours qui lui permet de convaincre ceux qu'elle opprime que leur place naturellement est celle du soumis. Et c'est un travail qui englobe toute la culture, je dirais, toute la représentation supposée être commune, et donc même pas discutable, en fait, hein, de la place des uns et des autres, de la distribution des responsabilités, des capacités. Et là, on a typiquement ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois cette hégémonie, elle est secouée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une hégémonie qui va laisser une place à une parole qui n'y était pas, ça c'est clair. Mais l'hégémonie n'a pas bougé d'un poil. À la fin de cette sécession-là, et l'ordre, effectivement, l'ordre de domination du patriciat, il est encore là. Alors, c'est d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est dans ce texte-là, c'est la plèbe qui fait sécession, c'est la plèbe qui est censée être à la manœuvre, mais au fond, ça reste une histoire du patriciat, cette histoire. C'est une étape dans l'histoire du patricien, C'est la manière dont les patriciens ont dû, d'une certaine manière, accepter cet espace qu'ils n'avaient pas prévu, qui n'était pas en quelque sorte, qui n'était pas destiné à exister. Et au fond, est-ce que c'est pas ça que nous raconte Ballanche? Et au fond, est-ce que c'est pas ça qu'on retrouve, si vous voulez, dans son positionnement, qui est un positionnement.
Ce serait moins la première sécession de la plèbe que la première concession du patriciat.
Exactement. C'est là. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, en tout cas. Thank you.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc on reprend pour la troisième et dernière partie de notre émission, consacrée ce soir à Pierre-Simon Ballanche et à son livre intitulé « La première sécession de la plèbe, formule générale de l'histoire de tous les peuples appliquée à l'histoire du peuple romain ». C'est édité chez Poncerre. Ça avait été édité à l'occasion de Nuit Debout.
Mais c'est un texte de 1829. Voilà.
Et c'est un texte de 1829. C'est préfacé par Jacques Rancière, philosophe politique rescapé du marxisme des années 70. Et voilà, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il se situe finalement au croisement de pas mal de thématiques qui sont assez actuelles et qui sont traitées d'une manière, malgré tout, assez originale quand même.
Ouais. Sur la fin.
J'avoue qu'il y a des passages du texte que moi j'ai absolument pas compris parce que c'est quand même, parfois ça vire au mystique. Un peu étrange, c'est pas désagréable à lire, mais ça mériterait peut-être, enfin je sais pas, peut-être, je sais pas si on va se plonger dans l'œuvre de Pierre-Simon Ballanche, c'est la première chose à faire.
Bah, ce qui est sûr, c'est que t'as un décalage entre le style d'écriture et puis entre même la forme du récit, qui est une espèce de truc très lyrique, très, qui fait appel à une espèce de mythe, quoi, hein, de mythologie, d'historien. Donc entre une forme qui est très, très, très désuète, quoi, on est en 1829, hein, de la part d'un auteur réactionnaire, monarchiste, catholique, favorable à la restauration. Alors en même temps, il faut le préciser, hein, c'est à la fois un monarchiste favorable à la restauration, mais sur une restauration, il ne faut pas faire de conneries. C'est-à-dire que contrairement aux ultra-ultra, en fait, il ne faut pas rétablir la situation de 1787 ou 1788. C'est-à-dire que Ballanche est sur cette ligne-là, c'est-à-dire que c'est un essai de palingénésie sociale. Donc
c'est le titre de son livre.
C'est un titre de son. Mais sa position à lui, c'est d'essayer de voir comment dans l'histoire il y a des moments où les sociétés ont su se régénérer par la crise, mais se régénérer pour en fait sortir d'un cycle de décadence. On change pas de régime, mais comment un régime se régénère par la crise. Et en fait, son idée, c'est d'essayer de voir dans l'histoire romaine comment on peut trouver des ressources pour savoir comment restaurer la monarchie de manière légitime. Donc il n'est pas pour rétablir la monarchie de 1788, parce que la monarchie de 1788, c'est celle qui a déclenché la révolution.
Donc elle était pourrie.
Alors c'est Giscard, je crois, qui a vu cette formule à propos de mai 68, qui disait que lorsqu'il avait été élu, qu'il ne s'agissait pas de rétablir la France de 1967 parce qu'elle avait un gros défaut, c'est qu'elle avait été suivie de mai 68. Elle est parfaitement authentique. Et en fait, ici, on a une démarche un peu de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a un monarchiste catholique, traditionnaliste, très hostile à la Révolution, mais qui essaye de voir comment, dans l'histoire, dans le passé, il y a eu des moments où justement des crises comme ça ont pu être surmontées, et quelles leçons on peut tirer pour justement restaurer l'ordre symbolique naturel qui est celui de la monarchie et de l'ancien régime. Donc c'est ça sa démarche. Alors donc il y a le ton qui va avec, il y a la forme qui va avec, donc ça c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui ? Moi, je disais au début de l'émission, il me semble qu'effectivement, cette catégorie de la plèbe et puis de ces thématiques de la parole, c'est même pas le peuple, je dirais, hein, c'est des citoyens de seconde zone. Comment on accède à la parole ? Comment, par quels moyens on les empêche d'y accéder ? Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place, pour justement accéder à ça, à cette forme de représentation qui est une représentation soumise, à mettre en place une scène sur laquelle on va pouvoir revendiquer des choses de manière à obtenir des concessions du dominant. Ça, effectivement, c'est des thématiques qui me semblent effectivement assez actuelles. Hein. Et le mouvement des Gilets jaunes, il est pris en partie là-dedans. Alors, il y a des trucs où ça marche moins bien, je trouve. Alors, déjà, on n'est pas obligé de se réjouir de ça, hein, parce que c'est
intéressant qu'on revienne à Ballanche, et finalement, à cette sécession de la plèbe, à un moment où toute perspective révolutionnaire a disparu.
Et toute perspective révolutionnaire, et je dirais même toute perspective peut-être même démocratique.
Possible, oui.
Parce que si tu veux, dans un cadre républicain, égalitaire, etc., il est acquis, y compris. Alors bon, il y a effectivement un référendum d'initiative citoyenne, la justice fiscale, etc., mais il y a beaucoup de choses dans ce mouvement-là. Il y a aussi d'autres points qui divergent, je trouve, c'est qu'en fait, là, à Rome, en fait, la plèbe se tire. La plèbe se tire. Elle ne va pas casser des chars de luxe au pied du Capitole. Si je garde le fil, la plèbe se tire. Elle n'est pas violente. Elle n'est pas violente. La violence fait partie des qualités attribuées par les patriciens à la plèbe. Hein, justement, on est violent quand on ne sait pas parler. Et là, d'une certaine manière, la violence très relative, hein, qui est celle du mouvement des Gilets jaunes, mais très, très mise en spectacle également, en même temps, elle est assumée, elle est revendiquée. Ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, je ne juge pas du tout, hein, en bien ou en pas bien, cette affaire-là, ou même en efficacité politique, mais c'est quelque chose qui diverge par rapport au récit que nous présente Ballanche. C'est-à-dire que la plèbe, en fait, elle se retire et elle discute. Elle discute, elle délibère, voilà. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui était plus proche de Nuit Debout que du mouvement des Gilets jaunes. Il y a ça. Donc, c'est un petit peu les perplexités sur lesquelles je reste, moi. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans un cadre où il n'y a plus de mouvement ouvrier, où il n'y a plus en fait de cadre représentatif, en réalité. C'est pour ça que je dis que c'est même pas sûr qu'on soit dans des... C'est même plus la question de la révolution, ça c'est évident, mais même la question d'un régime démocratique dans lequel, effectivement, il y a une égalité réelle, médiée par une représentation. Bon, alors, les anards, on n'est pas forcément friand de ça, mais c'est une conception de la démocratie possible. Celle-là, il se pourrait qu'on soit déjà passé à autre chose, déjà, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'absence de représentation et l'absence d'égalité qui va avec, évidemment, elle est aussi assez largement entamée. Et donc, effectivement, cette référence à la plèbe, hein, à cette espèce de révolte, je dirais, de révolte à la concession, un truc un peu comme ça. Ça, effectivement, ça a des résonances, je trouve. Après, évidemment, sur les formes, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est par exemple les parallèles qui peuvent être faits entre la fin, en fait, du récit de Ballanche, c'est-à-dire le moment où les plébéiens se donnent des tribuns, et puis l'émergence des figures, soi-disant des figures très populaires parmi les Gilets jaunes, ouais. Donc Drouet, Flyrider et Ludovsky. Compagnie, Ludovsky, qui ont effectivement quelque chose qui ressemble à ce statut de tribuniciel-là, hein, dont nous parle Ballanche. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas révocables, quoi qu'ils le revendiquent. Ils sont fins stratèges, très fins stratèges, je trouve. Enfin, ça fait quand même 2 mois qu'ils tiennent la dragée haute avec un sens du timing qui est quand même assez impressionnant. Qu'on soit d'accord ou pas, encore une fois, hein, avec les revendications ou pas, il faut reconnaître ça. Enfin, en termes de d'organisation d'un mouvement collectif, c'est quelque chose. Donc il y a tous ces parallèles-là. Ça a un côté jubilatoire. Il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté jubilatoire de l'ordre symbolique qui patine, quoi. Et du moment où effectivement ils perdent les pédales au sens strict. Les patriciens perdent les pédales.
Ce qui est très étonnant, c'est de voir Macron qui avait tant insisté sur l'importance des symboles dans la politique et qui n'arrête pas de se prendre finalement les pieds dans les tapis des symboles.
Sauf qu'en fait, on est dans sa symbolique.
Oui, on est dans sa symbolique.
On reste dans sa symbolique.
Mais tu vois, il incarnait la symbolique du pouvoir sans prendre en compte la symbolique de l'humiliation qu'il exerçait en même temps.
Alors effectivement, on est dans une séquence qui ressemble à ça, mais cela dit, encore une fois, personne ne propose la farce autour du parti ou des d'un parti de Gilets jaunes, la farce autour des récupérations de Le Pen ou de Mélenchon sous un autre registre de ce mouvement-là. En fait, elle est faut voir, hein, parce que l'histoire à la messe n'est pas dite. Hein. Effectivement, il y a peut-être des marrons qui seront ramassés à un moment donné par...
par l'un ou l'autre.
Par l'une peut-être plutôt que l'autre, on verra bien. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne cherche pas à renverser le gouvernement, on ne cherche pas à changer la société, on cherche à répartir... La question des inégalités, elle est centrale, bien sûr. Mais c'est le cas aussi, effectivement, dans le cadre de la plèbe. Mais c'est pas une manière révolutionnaire de la poser. C'est pas une manière... forcément démocratique non plus. Hein? Donc là, effectivement, il y a des choses qui portent, en même temps, sur les modalités, sur le rapport à la violence aussi. La violence, c'est un rôle assigné, je dirais, hein, à celui qui ne sait pas parler, d'une certaine manière. Donc, c'est ces questions-là qui me semblent intéressantes pour le...
Donc on vous parlait d'un livre de Pierre-Simon Ballanche, Première sécession de la plèbe, édité chez Poncerre, avec une préface de Jacques Rancière, et voilà, c'est un livre qui pourra vous donner, sinon la vérité sur l'époque, du moins peut-être un cadre de lecture, et peut-être quelques clés de lecture des événements.
Quelques questions
aussi, sans doute pas mal de questions. Voilà, et on va vous laisser, il y a Entre Chien et Loup qui est présent dans le studio, et je pense qu'ils vont vous faire écouter de la musique bizarre, ou un autre truc, on verra. Au revoir.
Rome wasn't burned in a day. Took a lot of time for the bricks to be raised. Rome wasn't burned in an afternoon. To Visigoths, Ostrogoths, and who knows who. See, everybody had a turn to make Rome burn. But those Romans, they never learn. It's time to take a match, man, it's time to return. I said, Rome wasn't burned in a day. Yeah! Rome wasn't burned in a day. Yeah! Come on! Rome wasn't burned in a day, yeah. And not in an hour. Yeah, that's what they say. We gotta burn it down now. Well, everybody said, man, you're crazy. You're never gonna burn Rome. All you got is fire. That city's made of marble and stone. Caesar and his legion, they're so strong.